podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Chelec, je suis journaliste et je vous propose, le temps d'un trajet en métro ou en bus, de tout comprendre sur un sujet de recherche. Celui du jour nous amène derrière le volant des voitures autonomes et connectées, là où conduire devient intermittent, voire plus du tout nécessaire, avec la promesse d'une meilleure sécurité. Bonjour Céline Lemercier.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en psychologie cognitive et ergonomique à l'Université Toulouse Jean Jaurès, chercheur au laboratoire CNRS Clé pour cognition, langue, langage, ergonomie de l'UT2J. En 2015, Céline Lemercier, vous avez commencé justement à travailler sur ces véhicules autonomes et connectés lorsque les constructeurs réfléchissaient à une voiture qui pourrait rouler toute seule. Mais pourquoi ont-ils eu cette idée, Céline Lemercier ?
Donc cette voiture autonome mais connectée, elle est née du fait qu'elle est une réponse que les constructeurs ont donnée à une problématique particulière qui est que 95% des accidents de la route sont liés à des erreurs humaines. Finalement, ces constructeurs se sont dit que pour réduire en fait les accidents de la route, le plus simple était de retirer de la boucle de la conduite l'individu, l'humain, et donc de créer des véhicules autonomes et connectés.
Vous parlez d'erreurs humaines, mais vous travaillez sur l'attention. Donc je suppose qu'il s'agit aussi d'erreurs attentionnelles, plus précisément.
Exactement. En fait, parmi l'ensemble des erreurs comportementales qu'on va pouvoir observer chez le conducteur, les erreurs liées à des troubles ou des défauts de l'attention sont les plus fréquents. En gros, vous êtes distrait, vous êtes derrière votre volant, vous êtes distrait parce que vous téléphonez, parce que vous discutez avec votre passager. À ce moment-là, quelque chose se passe sur la route. Par exemple, la voiture qui se trouve juste devant vous freine très brutalement. Et à partir de ce moment-là, en fait, si vous êtes distrait, vous allez avoir un ralentissement de votre temps de réaction, ce qui peut entraîner un accident.
Alors, je disais 2015, les constructeurs réfléchissent à ces véhicules nouveaux. Et 10 ans plus tard, on a des véhicules qui sont soit complètement autonomes, soit semi-autonomes. Et vous, ça vous a inspiré même un nouveau terme, du coup, cette nouvelle façon de conduire, qui est passager. C'est quoi ce statut, Céline Lemercier, de passaducteur ?
On va toujours discuter de cette problématique de l'attention. En fait, quand vous êtes conducteur d'un véhicule classique, donc de niveau d'autonomisation limité, vous êtes pleinement conducteur, vous faites pleinement attention à votre activité de conduite, du début à la fin de votre trajet. Mais ces nouveaux véhicules qu'on appelle des véhicules semi-autonomes de niveau 3-4 d'automatisation, c'est des véhicules qui vont conduire une partie du temps tout seul, vont vous permettre de réaliser d'autres activités comme lire, regarder un film, dormir par exemple. Et finalement, en fait, alors que vous étiez jusqu'alors pleinement attentif à la scène routière pendant toute la durée de l'activité de conduite, pendant tout votre trajet, cette fois-ci, en fait, vous allez alterner, votre attention, elle va alterner entre des situations où vous conduisez et des situations où vous faites autre chose. Et donc, quand vous faites autre chose, vous n'êtes plus conducteur de votre voiture, mais passager de votre véhicule.
Dans votre recherche, Céline Lemercier, vous travaillez sur les processus attentionnels, justement. Alors, c'est pas ça. Ducteur et pas séductrice, vous les avez observés en situation, vous leur avez dans un simulateur de conduite, ça s'appelle le Simulauto, c'est ça que vous dirigez ici
oui.
À l'UT2J ?
À l'UT2J, oui.
Et pour voir ce qui se passe justement au niveau de leur attention, qu'est-ce que vous leur avez fait faire ?
Alors en fait, on les met en situation d'être conduits pendant une certaine période, environ 30 minutes, par un véhicule autonome. Et puis au bout de 30 minutes, on va leur demander de reprendre le volant. Pendant les 30 minutes où ils ne conduisent pas, ils peuvent par exemple regarder un film, jouer à des jeux vidéo. Voilà. Et puis ensuite, on leur demande, comme c'est spécifié en fait par les constructeurs, on leur demande en 10 secondes de reprendre le volant à partir du moment où le système autonome leur demande de reprendre le volant. Et on observe ce qui se passe, et en particulier, on va s'intéresser à leur comportement visuel sur la route en utilisant des oculomètres qui vont nous permettre de savoir où les yeux sont fixés au moment de la reprise et juste avant en fait, cette période de reprise. En fait.
Vous parlez de où se pose le regard, mais ça veut dire que là, on passe d'un regard qui est fixé sur un objet assez près de nous, a priori, à un champ de vision qui est censé être à 180 minimum, voire plus.
Alors, c'est encore plus compliqué que ça, puisque vous avez des gens qui ne jouent pas ou qui ne font rien de particulier quand ils sont en situation d'être passagers de leur véhicule. Vous avez des gens qui vont juste, par exemple, regarder l'ensemble des informations qui sont sur la route, mais ils vont les regarder du point de vue du passager. Et quand vous êtes passager d'un véhicule, bah, vous ne regardez pas les mêmes choses que quand vous êtes conducteur. Quand vous êtes conducteur, vous avez un parcours stratégique de la scène routière. En fait, vous allez accrocher les éléments dans l'environnement qui sont pertinents pour votre sécurité, pour la sécurité de vos passagers. Typiquement, vous allez vous intéresser aux situations à risque, par exemple les intersections les plus proches, les situations de virage où, a priori, il peut y avoir quelque chose de caché derrière le virage qui est susceptible d'être dangereux. Si vous avez des piétons sur la chaussée, vous allez être vigilant à leur trajectoire, par exemple, attentif à leur trajectoire pour vous assurer que ces personnes-là ne vont pas, par exemple, traverser la route. Ça, c'est ce que vous faites quand vous êtes conducteur. Quand vous êtes passager, vous allez plutôt regarder des choses comme les promotions sur les affiches, vous allez accrocher, par exemple, sur la couleur du t-shirt d'une personne qui traverse la chaussée parce que ça vous amuse. Et ce qui attire votre œil et ce qui va vous intéresser et qui va en fait capturer votre attention quand vous êtes passager, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes conducteur. Et à partir de ce moment-là, en fait, même si vous êtes en train de regarder la scène routière et que vous allez devoir reprendre le volant dans les 10 secondes, quand vous êtes passager, en fait, il va falloir recentrer votre attention sur l'activité de reprise de l'activité.
Et alors, ce délai de 10 secondes, il est suffisant pour switcher son attention de son activité ludique ou loisir à son activité de conduite?
Alors, 10 secondes, en fait, c'est le délai minimum sur lequel en fait, les constructeurs s'engagent pour justement permettre le passage de la conduite autonome à la conduite par un humain. Donc, on part du principe qu'en fait, ces 10 secondes, c'est le délai minimal en fait, qui est nécessaire pour qu'un individu puisse reprendre le volant. Alors maintenant, est-ce que ces 10 secondes sont suffisants? En fait, c'est une prouesse technologique, hein, ces 10 secondes pour des véhicules, puisque ça veut dire quand même que le véhicule est capable, dans un délai de 10 secondes, de dire qu'il sera inopérant au bout d'un certain temps, enfin au bout de ces 10 secondes. Pour l'individu humain, c'est une autre affaire. En fait, 10 secondes, c'est extrêmement court. Et par exemple, des facteurs comme l'âge ou le manque d'expertise sont des facteurs qui vont impacter sur votre temps de réaction et qui font que un délai de 10 secondes, c'est vraiment, vraiment très court et parfois même trop court pour pouvoir reprendre de façon sécuritaire l'activité de conduite. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir reprendre l'activité de conduite. Maintenant, savoir si vous le faites dans les meilleures conditions, non.
Oui, mais ce que vous êtes en train de me dire, c'est que, par exemple, si un sanglier déboule sur la route, alors que je suis en train de lire tranquillement mon livre derrière mon volant, c'est pas la voiture qui va gérer, c'est forcément l'humain qui doit reprendre la main, c'est ça?
Pour le moment, en fait, on a trois situations particulières qui pose problème pour le véhicule autonome. Ces conditions, c'est l'absence de lignes blanches sur la route, c'est des virages trop serrés et c'est des problématiques de visibilité sur la route.
Ça, le véhicule autonome ou semi-autonome, il ne gère pas.
Quand la visibilité est très très réduite, et quand les lignes blanches ne sont pas présentes, effectivement, ça pose quelques difficultés au véhicule autonome.
Mais est-ce que ce n'est pas précisément là où l'humain aussi a le plus risque d'avoir des accidents?
C'est tout le problème de cette logique technocentrée, en fait, du développement de ces véhicules autonomes et connectés. C'est que globalement, en fait, l'être humain, et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 95% des accidents sont liés à une erreur humaine. C'est vrai, mais l'être humain, il n'a pas des accidents de la route partout, tout le temps et dans toutes les conditions. Il y a des situations dans lesquelles il est plus à risque. Il y a plus d'accidents de la route dans lesquelles l'humain est fortement impliqué. Et ces situations sont des situations de faible visibilité. Donc finalement, effectivement, la problématique de ces véhicules autonomes et connectés, c'est que sans doute qu'ils répondent à un besoin. Ils répondent effectivement à des besoins, par exemple, sur des longs parcours. Ça peut être effectivement très intéressant d'avoir un véhicule qui roule tout seul pendant 200-300 km sur autoroute. Mais par contre, la problématique, c'est que ces véhicules ne répondent pas aux enjeux du quotidien, on va dire, liés à l'usage de la voiture.
Et aux enjeux que vous nous évoquiez au départ.
Ouais. Exactement.
Des constructeurs. Voilà. Mais alors, du coup, la solution, ça serait quoi, vous, en tant que chercheur? Vous diriez quoi? Qu'il faut améliorer encore cette technologie ou apprendre à l'humain à bien se servir de cette technologie? Parce que peut-être qu'on se repose tranquillement derrière notre volant et qu'on n'a pas encore compris que c'est qu'un outil.
Je dirais les deux, mon capitaine. Il faudrait à la fois en fait que ces véhicules prennent en considération, en fait, soient plus imaginés dans une logique ethnocentrée qu'une logique technocentrée, c'est-à-dire qu'on essaye de voir en quoi est-ce qu'on pourrait développer des interfaces qui répondraient aux problématiques spécifiques des personnes.
C'est possible, ça ?
Mais oui, bien sûr, il y aurait sans doute moyen de développer des véhicules qui, par exemple, permettent de répondre aux difficultés liées à l'âge. Une personne âgée, par exemple, elle a des problèmes pour tourner la tête. C'est tout bête, hein, mais on a des problèmes d'arthrose, en particulier d'arthrose cervicale qui arrive avec l'avancée en âge. Donc, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal, par exemple, à tourner la tête dans des situations, dans des manœuvres, par exemple, de tourne à gauche. La situation de tourne à gauche, c'est la situation la plus dangereuse en voiture. C'est celle qui consiste à... En fait, il faut croiser la voie opposée pour pouvoir mener à bien sa manœuvre de tourne à gauche. Et en fait, les accidents de ces personnes âgées, ils arrivent parce qu'ils ne voient pas le véhicule qui arrive en face, parce que quand ils sont dans la manœuvre, en fait, ils ne tournent pas la tête parce qu'ils ont des problèmes d'arthrose. Bah, typiquement, on pourrait imaginer, par exemple, des choses qui permettraient de limiter ces difficultés liées à cette arthrose. Il y a sans doute moyen de développer des interfaces qui permettraient de limiter, en fait, la nécessité pour la personne âgée de tourner la tête.
J'ai une dernière question, Céline Lemercier, parce que cette technologie au volant, moi, m'interroge. Et je me disais, est-ce que, à l'inverse, ces outils qui nous accompagnent dans la conduite et qui nous permettent de nous décentrer de la conduite, puis d'y revenir, est-ce que ce n'est pas mauvais, justement, pour notre fonction cognitive, qui est l'attention ? Est-ce que l'attention, ce n'est pas quelque chose, justement, qui se travaille comme la mémoire ?
Ça permet de développer et de maintenir un certain nombre de compétences cognitives. Et typiquement, actuellement, on se pose la question de savoir si c'est si bien que ça d'empêcher les gens de conduire, ou tout du moins de proposer des véhicules dans lesquels, en fait, ils ne vont pas conduire. Ou si, en fait, finalement, ces véhicules semi-autonomes répondent à une problématique spécifique qui pourrait être, par exemple, les voyages de longue distance. Ça ne serait qu'une alternative, une alternative à d'autres moyens de transport qui, eux, en fait, imposeraient une conduite plus active de la part des usagers.
Donc, ça veut dire qu'il faut identifier les situations et les environnements, quoi, de conduite.
C'est ça. Et puis, il faut s'assurer qu'on est face à des solutions de mobilité qui répondent à l'inclusivité dans la conduite. C'est-à-dire que typiquement, il faut que tout le monde puisse aller de là où il habite, là où il veut aller, en fait, en toute sécurité.
Céline Lemercier, est-ce que vous auriez, c'est la tradition dans On Air, un conseil de lecture, d'expos, de films, de conférences sur ce qu'on vient d'évoquer ?
Pour illustrer toute la difficulté qui est liée à ces nouveaux modes de mobilité et pour aller encore plus loin que le simple véhicule semi-autonome, le film qui me vient en tête, c'est Le Cinquième Élément, avec... une circulation qui est en trois dimensions et donc qui implique en termes attentionnels et cognitifs une grande complexité pour la personne qui est derrière le volant.
Un grand merci, Céline Lemercier, d'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production Le Vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le média numérique de l'université, et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr de l'UT2J. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'université et sur les plateformes numériques. On Air.